Bonjour à tous. Ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure, ben, je les verrai après. Merci à notre cher frère là, de ton témoignage, parce que ça nous fait chaud au cœur de savoir que tu as été bien accueilli, parce que c'est quand même le but, effectivement, de notre Église première. Et bon, ça nous réjouit le cœur de savoir que ça se fait. Et nous prions pour ça. Moi, je voudrais vous rappeler, justement, pour ceux, je vois qu'il y a des nouvelles têtes, ceux qui n'ont peut-être pas tout suivi, je prêche sur le livre de Néhémie, et nous sommes dans le chapitre 5 aujourd'hui, chapitre 5 de Néhémie, voilà. Alors, ce livre de Néhémie, je crois que vous connaissez, Néhémie, c'est un homme de Dieu, c'est un homme puissant, il faut bien comprendre ça, il est à la cour d'Artaxerxès, excusez-moi du peu, mais c'est une cour qui fait partie de ces grands empires où il y avait énormément de puissance et de richesse. Et Néhémie est l'échanson du roi, c'est-à-dire celui qui goûte le vin. Et encore, pour répéter, l'échanson du roi avait une place importante parce que dans cette époque-là, il y avait beaucoup d'empoisonnement. C'était quelque chose de fréquent. On avait envie de se séparer du roi, c'était une bonne chose. Et donc l'échanson, lui, était un homme qui était prudent parce que comme il devait goûter, forcément il faisait attention à tout ce qui se passait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parenthèse avec Joseph dans la prison, quand il y a le panetier et justement les chansons, hein, on voit l'importance et le risque qui court, puisque ce pauvre panetier, il finira pendu. Donc il y avait quand même des circonstances particulières. Et Néhémie, lui, a la confiance du roi. C'est-à-dire que Néhémie n'est pas simplement un échanson. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que c'est un exilé, hein, c'est un juif qui fait partie de, justement, ce peuple qui est asservi, hein, à ceux qui mènent le monde à cette époque-là, dans cette région. Et ça veut dire que, quelque part, c'est normal qu'ils servent. Mais Néhémie a quelque chose de plus. Et il a su gagner la confiance du roi. Alors nous avons vu, je ne vais pas faire l'inventaire, je vais regarder l'heure parce que je dois faire attention. Nous avons, et ça ne fait pas partie de mon message, hein, c'est juste un petit rappel, mais il faut le faire quand même. Nous avons vu au début que Néhémie a été touché par le récit de ce qui se passait de son peuple. Donc il avait son frère qui était parti, parce que c'est une grande famille, hein, une famille excessivement riche et puissante. Ça, il fallait le savoir. Les chansons, comme les conseillers qui étaient autour, étaient des gens qui, justement, se bordaient, se protégeaient et qui récupéraient la puissance et les honneurs de leur position. Donc Néhémie fait partie de ces gens-là. Mais Néhémie a quelque chose de plus, c'est un homme de Dieu et le roi le sait. Le roi respecte. En plus de ça, nous sommes dans une période où avant, il y a eu des rois qui ont massacré notamment l'Israël, hein, puisque le temple a été écrasé, pillé, il a été brûlé. Et donc, il faisait un petit peu, si vous voulez, la terre brûlée. Mais après ça, il y a eu les Perses qui sont arrivés, et eux ont compris que valait mieux laisser les gens qui vivaient sur place s'occuper de leur pays, faire de la culture, etc. Et ça leur permettait de récupérer, justement, des impôts qui étaient possibles, qui revenaient dans leur poche, puisqu'en général, ils récupéraient la moitié de ce qui était produit. Donc, vous voyez, il n'était pas bête, il s'est dit, à partir du moment... Voilà, donc, Néhémie fait partie de ces gens qui sont dans cette culture et qui sont, quelque part, des gens qui intéressent le roi. Le roi est un homme intelligent et donc il regarde ce peuple. Et Néhémie, qui est un dirigeant du peuple à côté de lui, a su garder sa confiance. Et nous avons vu dans les chapitres précédents pourquoi. Alors, on ne va pas en revenir. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de tout refaire les chapitres. Et c'est bien dommage parce que Néhémie est un livre passionnant. C'est un livre, comme tu as dit tout à l'heure dans ton témoignage, j'ai beaucoup aimé, où la théologie n'est pas en premier. Ce qui est en premier dans ce livre, c'est le cœur de Néhémie. C'est ce qu'il vit, ce qu'il est. Déjà, avec ce roi, il est reconnu comme quelqu'un de confiance. Quand il arrive avec une mine complètement comme ça, affaiblie devant le roi, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire qu'il sait qu'il y a un complot quelque part, et il a les jetons de boire, il a peur. Et le roi, c'est ce qu'il aurait dû penser, mais le roi n'a pas pensé ça. Parce que le roi avait tellement confiance en Néhémie qu'il a dit, s'il avait su quelque chose, il me l'aurait dit. Non, il lui dit, ça ne peut être qu'une peine de cœur. Ça peut être que quelque chose de personnel. Ça ne peut être que quelque chose qui te touche. Dis-moi si je peux t'aider. Donc là, on a véritablement cette position de Néhémie qui vit ce qu'il fait. Néhémie aussi nous révèle dans ce livre un fil conducteur. Et ça, c'est important parce que c'est véritablement ce qui le différencie aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous avons vu que pour Néhémie, le fil conducteur, c'est Dieu d'abord. Dieu avant toute chose. Il lui arrive quelque chose, il prie. Il arrive devant le roi, justement, pour revenir à ce premier chapitre, et le roi l'interpelle. Alors là, Néhémie a peur. Parce que c'est un homme aussi, Néhémie. Hein, c'est pas... Il sait que ce qu'il risque. Si le roi commence à lui dire « mais tu as une drôle de mine », il a peur, il se dit « je ne sais rien » et il va avoir... Et à l'époque aussi, les jugements étaient assez radicaux. Hein, on ne discutait pas « je vais te donner 10 ans ». Non, on dit « on va te couper la tête ». Ça, on n'y reviendra plus. Donc ça, c'était quand même, s'il avait peur, il avait raison d'avoir peur. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Je ne vais pas relire ce passage-là. Il dit « j'ai prié mon Dieu ». Chaque fois que Néhémie est placé devant une situation dangereuse, difficile, qu'il ne peut pas résoudre ou quoi que ce soit, il s'arrête et il dit « je prie mon Dieu ». Ou alors il dit aux autres « prions Dieu ». Et à chaque fois, Dieu répond. On a pu voir dans les chapitres précédents que Dieu répond. En toutes circonstances, donc, Néhémie prie son Dieu. Il a confiance en son Dieu, c'est ce qui le motive, et ce livre est un chant à la gloire de Dieu. Et j'espère que j'arrive à vous passionner par cette idée, parce que effectivement tout le livre nous montre l'importance pour Néhémie de Dieu. C'est pourquoi c'est Dieu d'abord, avant toute chose, quoi qu'il puisse se faire dans ma vie. Merci du bon témoignage, c'est vrai. Avant tout, Dieu d'abord. Voilà, c'est ce qu'il est dit. C'est bon d'avoir des témoignages aussi dans notre Église qui nous témoignent que d'abord la Bible dit vrai, mais en plus qu'on le vit. Nous sommes un peuple converti. Nous ne sommes pas un peuple professant simplement. Nous sommes un peuple qui fait et qui obéit à son Dieu et qui pratique tout ce que Dieu lui demande de faire. Parce que c'est comme ça que l'on vit. C'est un peuple qui a l'Esprit de Dieu dans son cœur. Et cet Esprit lui permet de faire ce que Dieu lui demande. Néhémie aime son Dieu. Il vit avec lui, c'est une réalité. Ensuite, aussi, dans le fil conducteur, ce que nous voyons, c'est que Néhémie n'a aucune illusion sur ses propres forces. C'est Dieu sa force. C'est ce que nous révèlent les chapitres les uns derrière les autres, c'est que Néhémie a raison d'avoir confiance en son Dieu, mais qu'à aucun moment, Néhémie va dire « moi, je sais faire, je vais faire ». Voilà. C'est Dieu sa force. Il y a chez Néhémie cette obéissance constante, Dieu d'abord. Encore ? Voilà, merci. Nous arrivons dans le chapitre 5. Néhémie a cette chose que je répète souvent, parce que j'essaye de le faire dans ma vie, c'est qu'il ne se contente pas de dire ce qu'il faut faire, il fait, il agit. Et ça nous interpelle, nous, chrétiens, nous ne sommes pas ici restés pour simplement jouir de tout ce que Dieu nous donne, mais pour être ses témoins, pour agir dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous n'êtes pas rien. Au contraire, je vous ai laissé ici pour être quelque chose qui témoigne de ce que je suis et de ce que Jésus a fait. Alors, dans le chapitre 5, nous allons y rentrer. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Néhémie. Donc, Néhémie se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un livre que l'on appelle historique, parce qu'effectivement, il rappelle une histoire qui s'est véritablement passée à un moment donné. Et alors, aussi autre chose, nous voyons que Néhémie a pour tâche de reconstruire les murailles de Jérusalem. Le roi lui a donné les pleins pouvoirs, il est gouverneur de la Judée, il a des lettres pour ceux qui sont autour, afin qu'ils puissent récupérer du matériel, de l'argent, etc. Vous voyez, Néhémie ne vient pas sans rien, et ce n'est pas n'importe qui. Il vient avec une troupe armée. Donc il a tout son staff qui est avec lui, mais il va rencontrer des ennemis. Nous avons vu au chapitre 4, la première forme d'opposition, c'était la raillerie. Souvenez-vous, Sambala a pris que nous rabâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Ça c'était, et la solution de Néhémie, c'était la prière. Nous avons vu dans le chapitre 4, la deuxième forme d'opposition, le découragement. Verset 10, cependant Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. » La solution, c'était la foi. Verset 14, Néhémie dit, « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères et pour vos fils et vos filles. » Et là, nous arrivons dans une autre forme d'opposition. Et chers frères et sœurs, c'est un message difficile ce matin, un message que je n'aime pas faire, parce que ça touche quelque chose de désagréable, il faut le dire. Et ben, on va prier peut-être avant de commencer, parce qu'effectivement, on va pouvoir mettre l'autre vue. Merci. Seigneur notre Dieu, tu nous as laissé ta parole justement pour que les choses faciles et les choses difficiles puissent être évoquées et que nous puissions te demander ton aide afin que justement nous puissions traverser, vivre, supporter et participer à justement le plan et pratiquer ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous dans un contexte heureux ou pas heureux. Seigneur, je prie que tu nous donnes de comprendre ta parole et donne-moi les mots. Purifie ma bouche, Seigneur, lave mon cœur, afin que justement tout ce qui sort ne soit qu'inspiré par toi et soit justement ce que tu voudrais que l'on entende. Que ta parole soit à nos yeux, Seigneur, comme une véritable lampe, qu'elle illumine notre sentier, comme elle dit, et que nous puissions justement être éclairés ce matin. Éclaire-nous, Seigneur, sur ce sujet. Je ne vais pas dire que c'est une accusation contre nous, pas du tout. Au contraire, nous sommes une Église qui est, combattante et heureuse dans pas mal de points. Mais ça n'empêche que ta parole est là aussi pour nous avertir, pour nous enseigner et puis pour nous aider à comprendre. Seigneur, merci de tout ce que tu nous as laissé. Merci aussi pour tous les nouveaux amis qui nous rejoignent dans cette Église. On prie pour ceux qui sont absents, parce qu'effectivement, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont des obligations, qui sont partis à droite ou à gauche. Mais nous voyons quand même que ton Église est pleine, parce que c'est toi qui la remplis, Seigneur. C'est toi qui ajoutes les uns et les autres dans l'Église qui t'appartient. Alors bénis chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai entendu aussi que c'était plus facile lorsque, on va passer encore une vue, lorsque l'on projetait la parole de Dieu. Voilà, comme ça, vous allez avoir tous les versets. Je lis dans ma version, moi j'ai une bonne vieille Scofield, c'est celle de ma génération, pardonnez-moi. C'est une classique, qui n'est pas tout à fait les paroles comme disait Jean-Pierre. Mais la parole de Dieu est toujours la même. Ce n'est pas parce qu'on change un mot qu'on le met à l'avant ou on le met à l'arrière que c'est différent. Alors je lis. « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » D'autres disaient, « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient encore, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos fils y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Arrêtons-nous là. Comme tous les efforts ont été concentrés sur le combat, parce que donc, comme on a partagé, ils reconstruisaient la muraille, tout le monde s'était porté volontaire pour aider à travailler, enfin, presque tout le monde, et pour se défendre contre les ennemis, on a vu ça aussi, la disette, c'est-à-dire la faim, s'est emparée peu à peu du pays. Ils n'ont pas travaillé, c'est pour ça. Certains qui n'ont pu s'occuper de leurs propres affaires connaissent maintenant la souffrance de la privation, et puis il y en a qui profitent. Dès le verset 1, nous avons vu, il s'éleva de la part des gens, du peuple, des grandes plaintes. Des grandes plaintes contre qui ? Pas contre les ennemis, contre leurs frères juifs. C'est pourquoi je vous dis, c'est quelque chose de difficile à partager. La dernière fois, on a parlé du combattant, des ennemis. Ça va bien. Hein, on sait qui sont les ennemis et on sait qui on est et on se mobilise pour aller contre les ennemis. Mais là, ce sont nos frères. Nous assistons donc à trois ou quatre sortes de plaintes. Verset 2, nous voulons recevoir du blé pour manger. Tout simplement. Verset 3, nous devons donner nos champs, nos vignes en gage pour avoir du blé. Au verset 4, nous avons dû emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes. Et enfin, cette plainte finale, terrible, au verset 5. En réalité, notre chair est pareille à celle de nos frères. Nos enfants sont pareils aux leurs, et pourtant, nous devons vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Plusieurs même de nos filles le sont déjà, et nous sommes sans ressources puisque nos champs et nos vignes sont devenus la propriété d'autrui. Nous sommes devant une situation critique où les Juifs pratiquent des actes de cupidité graves. Les pauvres vendent leurs filles en esclavage et les riches en profitent pour faire quelque chose qui implique d'agir dans une situation critique avec sagesse et par l'exemple, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Verset 5, comme on l'a lu. Et pourtant, notre chair est pareille. Dans le chapitre 5, du verset 6 au 13, maintenant, on va mettre. Pendant que tous s'allient pour reconstruire la muraille, il y a toujours ceux qui, par cupidité, s'approprient le peu des autres. Et Néhémie va en être irrité au verset 6. Nous lisons verset 6 à 13. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi ? Vous prêtez un intérêt à vos frères ? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. On continue jusqu'au 13, pardon. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Donc, abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendons-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons et le centième de l'argent, du blé et du moût et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous leur rendrons et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aurait point tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit « Amen ». On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Néhémie va en être irrité. N'oublions pas qui est Néhémie. C'est le gouverneur de Judée. C'est donc le patron de tout ce peuple et il s'adresse à eux, les grands, les magistrats. Et là, il est irrité. On pourrait même dire en colère. C'est aussi une des facettes. C'est un homme puissant qui a l'habitude d'agir, qui sait commander. Alors arrêtons-nous un peu sur ces faits. L'argent, la propriété, le don de soi et la cupidité. C'est le mal de notre siècle. Hein ? Aujourd'hui, le dieu de ce siècle, c'est l'argent. Nous n'allons pas... Le matérialisme. Il faut avoir si la dernière plaquette, le dernier machin, la montre, le truc, les marques. Et puis à la fin, on n'a pas assez d'argent. On n'a jamais assez, bien sûr. Nous avons peur de parler de l'argent, des biens, et de faire la différence entre avoir de quoi vivre et vouloir posséder. La Bible en parle. Alors parlons-en rapidement, mais parlons-en quand même. Nous avons dans l'Ancien Testament le modèle de la dîme, c'est 10%. C'est la loi, hein, l'Ancien Testament. Mais c'était le modèle de ce qui était à peu près logique de redonner à Dieu. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Je vous invite à venir avec moi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. 2 Corinthiens. Alors, les églises de Corinthe étaient des églises un petit peu en difficulté, on va dire. Parce que dans ces églises, il y avait des gens qui venaient de partout. Alors, il y avait des tas de façons de voir les choses. Et ce n'était pas très bien. Il faut dire que Paul, il a usé quand même de beaucoup d'énergie pour leur expliquer ce qui était bien de faire. Et il va parler ici de l'argent. À partir du verset 6, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. » Vous voyez, il n'est plus question de 10% dans l'Ancien Testament. Il est question de qu'il donne comme il a résolu en son cœur, une pleine conviction que le Saint-Esprit nous dirige pour savoir comment il faut faire. Ceux qui ont beaucoup vont donner beaucoup, ceux qui ont peu donneront peu. Mais ce n'est pas ça qui est important. Chacun donnera comme il aura résolu dans son cœur. C'est ce que nous dit ce passage. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont il fait l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux, et envers tous. Et il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Il est aussi écrit, je ne vais pas tout reprendre les passages, que votre superflu pourvoit à leur nécessaire. Mais il existe aussi d'autres façons de donner. Il ne faut pas s'arrêter à l'argent, justement. L'argent est le dieu de ce monde, ce n'est pas le nôtre. Donc il y a d'autres façons de donner. De notre temps, de nos prières, nous sommes une église avec beaucoup de personnes d'un certain âge. C'est la meilleure armée du monde. Prions, mes amis, la prière est une arme puissante contre l'adversaire. Et je vous invite, une parenthèse, dans la deuxième partie, vous savez, d'un cœur pour les perdus que j'anime, et ce sera sur la prière. Et vous verrez que prier n'est pas une option. Certains disent que nous en faisons trop. Oui. Que j'en fais trop. Bon, oui. Trop de ceci, trop de cela. Mais personnellement, pour Dieu, je pense que nous n'en faisons jamais assez. Pour évangéliser, il faut du temps, de l'argent, de la sueur. Et des prières, beaucoup de tout et par-dessus tout cela, de l'amour. J'ai entendu ce matin des témoignages qui m'ont rassuré, qui m'ont fait du bien. parce qu'effectivement, notre Église sait donner de l'amour. Quand nous avons fait tout cela, disons, nous sommes des serviteurs inutiles. Pour revenir à Néhémie, il se sentait bien comme un serviteur de Dieu Tout-Puissant. Il est irrité devant Dieu du désordre qui règne au milieu du peuple. Les uns exigent, les autres retiennent. Ceux qui convoitent et qui n'ont pas sont amers. Ceux qui possèdent et qui ne donnent pas le sont aussi dans la crainte de devoir se dépouiller. Chaque fois que l'on se trouve dans cette attitude d'amertume, les ténèbres envahissent le cœur. L'amour étouffe. Le cœur se fane, la joie disparaît. Et l'on dit que c'est la faute des autres. Menteurs. Menteurs que nous sommes, c'est de notre faute. Lorsque nous nous fermons à l'amour, nous sommes dans l'obscurité et nous chercherons des fruits en vain. Et Néhémie de dire au verset 9, « Ce que vous faites n'est pas bien. » Par rapport à ce texte. Il n'y a pas de place pour la gloire dans l'œuvre de Dieu. Ce qui doit motiver notre zèle, c'est la charité. Animés par cet amour, nous n'aurons pas peur de donner encore et encore. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui a le privilège de pouvoir donner, c'est une grâce. Et je vous assure que cette grâce, ça fait du bien. Il n'y a pas que l'argent qui compte, on a dit. La gentillesse est à donner. Le temps pour les autres. Toutes sortes de services gratuits dans le monde. C'est cela, évangéliser. C'est donner de son amour. C'est donner de son cœur pour et tout le temps dans le monde. Tous les jours, donnons de la patience, de la tendresse, de l'amour et parfois de l'argent si nécessaire, sans se démunir. Enfin, nous allons finir dans le chapitre 5 par les versets 13 à 18. J'ai perdu Néhémie. Hop. J'ai dû enlever mon petit truc. Voilà, Néhémie 5. Donc, chapitre 14, verset 14. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 25e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, c'est long 12 ans, hein, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple. Ils recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 sicles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais pourtant à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux ou de la volaille, et tous les 12 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Comme Néhémie, verset 10, lâchons nos biens. Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Et au verset 15, pour ma part, je n'ai pas agi de cette manière et ce par crainte de Dieu. Voilà, on retrouve le fil conducteur. Et ce par crainte de Dieu. Dieu d'abord. Même s'il s'agit de se faire dépouiller, même s'il s'agit de ne pas réclamer ce qui nous est dû, Dieu d'abord. C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous ne serons peut-être pas obligés de tout vendre, hein ? Croyez pas que c'est ce que Dieu nous demande. Non, mais agissons comme si nos biens ne nous appartenaient plus. Les autres pourront aussi profiter de ce que nous possédons. Les croyants qui sont attachés à leurs possessions craignent toujours qu'on les exploite. Ils ont peur que les autres profitent ou abusent de leur bonté. Néhémie nous donne l'exemple d'un homme qui a tout livré au Seigneur. Et encore une parenthèse, Néhémie est un notable, c'est un homme de la cour du roi, puissant et riche. Il a toute possibilité de faire ce qu'il veut et de prendre ce qu'il veut. Pourtant, il dit au verset 17, « J'avais à ma table » et il explique tout ce qu'il fait. « Malgré cela, Je n'ai pas réclamé de revenus pendant 12 ans. Et c'est pas rien. Pendant 12 ans, cet homme est venu à côté de ses frères. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il a donné tout ce qu'il a pu et il n'a rien pris. Il n'a rien donné. Voilà un exemple. C'est pour ça qu'il dit « Ce que vous faites n'est pas bien ». Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous ne serons peut-être pas obligés de tout vendre. Maintenant, parlons à cœur ouvert, sans retenue. C'est bon de temps en temps de se laisser aller. Le culte n'est pas seulement un endroit de louange ou d'enseignement, c'est aussi une maison de partage. C'est aussi un endroit où on a la possibilité d'échanger nos points de vue. On nous l'a rappelé en témoignage ce matin. C'est vrai, on peut aussi parler à cœur ouvert, dire la vérité. Ce livre de Néhémie me touche en profondeur. C'est au plus profond de mon cœur que Dieu fait vibrer la corde sensible de donner. Et de donner sans réserve, toujours et toujours. Et tiens, puisqu'on y est, je vais vous donner un petit témoignage rapide. Vous avez vu mon livre de cuisine? Vous savez qu'un petit livre comme ça, ça coûte cher. Ça coûte 2000 euros de le faire. Il y en avait 1000, ça coûte 2000 euros. J'ai un imprimeur qui me fait des imprimés pour l'OMS que je dirige. Il m'a dit, monsieur Molliard, je vous le fais moitié prix. Content. Ah, c'était sympa. Là. Il ne le vendait que, on va dire, le travail et la matière qu'il y avait. Donc, j'étais là, je réfléchissais avec ma femme. Bon, il va falloir que je trouve les autres 1000 euros, mais bon, on va bien voir. Vous ne m'avez jamais entendu les demander ou quoi que ce soit. Et en début d'année, j'ai appelé en imprimeur, j'ai dit, vous pourriez me faire une facture, s'il vous plaît, pour que je puisse vous la régler, parce que je dois la régler. Et il m'a répondu, monsieur Molliard, je sais ce que vous faites. Alors j'ai décidé de vous les donner. Dieu pourvoit, au-delà de ce que nous imaginons, à nos besoins. Merci Seigneur. 12 ans. Ce livre de Néhémie nous rappelle que toujours et toujours, Dieu ne regarde pas la dépense. Il nous donne son amour, sa puissance, et il partage sa sainteté. Parfois, nous croyons que c'est normal. Que Dieu nous donne. Souvenez-vous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est Dieu après tout, il peut tout, c'est vrai. Et on finit par s'habituer que Dieu nous doit nous donner. Seulement, nous, quand il s'agit de donner et de ne pas penser à l'argent, parce que l'argent ce n'est pas le plus cher, pensons à notre temps. Que faisons-nous pour Dieu dans le monde chaque jour? Que faisons-nous? Il est écrit dans Jean 13, 35, « C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Ce n'est pas au fric que vous avez ou que vous partagez, non. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Voici la marque la plus importante de l'évangélisation. Je me suis converti avec une femme de Dieu exceptionnelle. Elle avait en elle la joie de l'esprit, cela se voyait. Et immédiatement, quand je l'ai vue, et pour demander à ma femme, c'est vrai, j'ai su que ce que je cherchais, cette lumière qui brillait en elle, elle avait ce parfum de Christ. Ça nous interpelle, ça. Est-ce que nous avons ce parfum de Christ? Est-ce que les gens voient cette lumière de l'Évangile briller non pas à travers ce que nous disons, mais plutôt à travers ce que nous faisons? C'est pour ça que j'aime bien le Sermon sur la montagne, qui est le manuel de Jésus pour les chrétiens. Je vous invite à relire les Béatitudes. Heureux. Hein, etc. Et puis dans le chapitre 5, le verset 19, dernière vue, merci. Voilà. Néhémie nous donne un bon exemple, ce qui lui permet de dire en fin de ce chapitre, verset 19, « Mon Dieu, souviens-toi pour mon bien de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Vous vous rendez compte? Néhémie, c'est un sacré orgueilleux, il s'adresse à Dieu comme ça. Non, bien sûr. Il parle avec Dieu. Il dit la vérité. Néhémie n'a pas besoin de s'excuser ou d'inventer des choses. Quand il parle avec Dieu, c'est sincère, c'est vrai, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il pense. Il donne, mais il donne avec beaucoup de joie. Il donne non pas pour essayer de récupérer quelque chose. Vous avez vu, pendant 12 ans, il va donner au-delà même de ce qu'on peut imaginer. C'est vrai, il était riche, il pouvait le faire. N'empêche que quand même, il l'a fait et sans rien demander. Il y a là un exemple qui est fabuleux, justement, sur ce qu'est la valeur de l'argent, ce qu'elle peut donner, mais aussi ce qu'elle peut prendre. Parce que tous les magistrats, les juifs qui étaient sur place, alors non seulement ils voyaient leurs frères qui n'avaient pas de quoi manger, mais en plus ils leur suçaient la peau pour avoir, jusque même au-delà de ce qu'ils poussaient. Ils prenaient leurs filles en esclavage. Vous imaginez, on est dans la folie la plus grande, là. Néhémie va leur dire, mais ce n'est pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que Jésus dirait s'il rentrait dans notre église, sachant que Jésus voit dans notre cœur. Il ne va pas regarder au fond de notre poche, ni au fond de l'offrande. Il voit dans notre cœur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vis? Quelle est ta vie? Quand tu vas partir de cette église, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu continues de vivre? C'est voilà ce qu'il dit. Néhémie, lui, Jésus est toujours avec lui. Son Dieu, il est présent tout le temps dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il lui rappelle, là, il est à la fin, il a discuté avec les grands, il dit ce qu'il a fait, et puis il dit, « Mon Dieu, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Il a accompli son ministère. Néhémie était un homme généreux, c'était un homme de Dieu. Et nous, nous sommes des enfants de Dieu. Il faisait plus qu'il ne disait, et nous, que fait-on? Ce chapitre peut paraître dur pour nous, mais posons-nous les bonnes questions. C'est ce que la parole nous invite à faire ce matin. C'est humainement impossible. C'est vrai, humainement, ça paraît impossible de faire ce qu'a fait Néhémie. Néhémie priait de tout son cœur et donnait de ses mains, sans même percevoir un juste salaire. Il avait compassion des pauvres. Il donnait sans compter. Il donnait de lui-même. Il donnait de sa vie sans compter. Il donnait. Voilà la véritable dynamique de l'Évangile. Savoir donner. Donnons encore, et plus encore, parce que nous avons tant reçu. Prions. Seigneur, c'est vrai que tu nous as tout donné. Tu es mort pour nous, tu nous as donné ta vie. Pas rien. Tu nous as donné tout ce qui t'appartenait, qui t'était personnel, ta vie. Toi, le Saint, tu es venu pour t'offrir pour nous. Seigneur, nous avons tellement reçu que parfois il nous arrive d'oublier justement tout ce que tu nous as donné. La vie nous dit que, je crois que c'est dans Colossiens qui est écrit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il nous a tout donné. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alors bien sûr, c'est vrai puisqu'elle est cachée. Ça nous est difficile, nous qui sommes tellement terre à terre, de ne pas le voir. Seigneur, montre-nous, fais-nous voir et nous croirons. Eh oui. Mais ce n'est pas comme ça que nous marchons, nous les chrétiens. Nous marchons parce que, au fond de nous, Dieu nous a donné un esprit de vie. C'est ça qui nous fait vivre. Cet esprit, justement, si nous le laissons agir, va nous permettre de faire des choses qui sont impossibles à l'œil humain. Mais rien n'est impossible à Dieu. Si nous laissons Dieu, c'est ce que Néhémie faisait. Néhémie, vous verrez encore qu'il y a d'autres épreuves qu'il va rencontrer. Et chaque fois, il ne se laisse pas avoir. Il ne se laisse pas prendre par les effets qu'on fait autour de lui. Non, à chaque fois, il appelle son Dieu. Et il prie. Et il dit à son Dieu tout ce qu'il voit et tout ce qu'on lui fait. N'ayons pas peur de le faire. Je vous invite, mes frères et sœurs, à prier dans ce sens que Dieu peut aujourd'hui encore sauver. Merci, Seigneur.